Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Le français est les langues nationales au Gabon. Quelle cohabitation! Un important colloque, une série de conférences très importantes, vient de se tenir à l'ambassade de la République gabonaise à Paris à l'occasion du 50e anniversaire de la mort du premier président de cette République, Léon Mba. Colloque très intéressant dans la mesure où il ne s'est pas agi de faire l'éloge du grand personnage, mais plutôt de réfléchir en homme de science sur une série de questions touchant bien sûr à l'histoire, à la politique, à la culture, à l'héritage aussi. Évidemment de ce père fondateur de la nation gabonaise. Et au cours de cette conférence, beaucoup de choses intéressantes ont été dites, sur lesquelles nous aurons peut-être l'occasion de revenir dans Mémoire d'un continent. Chose très importante, la question des langues. Le français et les langues nationales du Gabon, question importante parce que nous avons souvent l'habitude de découper l'Afrique en zones linguistiques, hein, l'Afrique francophone, anglophone, arabophone, etc. Or, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'au Gabon, il n'y a pas que le français, il y a les autres langues. Alors, je reçois pour en parler le professeur Patrick Mugyama Daouda, qui est professeur de linguistique tourné essentiellement vers l'histoire à l'université Omar Bongo de Libreville et en même temps conseiller spécial du président de la République. Professeur, bonjour et merci de venir au micro de Mémoire d'un continent.
C'est vraiment un grand honneur, professeur.
Alors, la situation gabonaise, il y a eu la colonisation française, ne remontons pas trop loin dans le passé parce qu'il y a eu d'autres peuples, notamment les Anglais, qui ont joué un rôle important dans l'histoire de ce pays. Évidemment, on sait que dans les colonies françaises, le français était la langue du pouvoir, la langue de l'école, la langue de beaucoup d'activités. Mais très intéressant, les autres langues non seulement n'ont pas disparu, mais ont persisté. Et le premier président du Gabon avait cette particularité de maîtriser parfaitement les deux langues, à la fois le français et d'autre part toutes les langues locales. Donc un président multilingue, d'où peut-être se pose la question, quelle a été son approche de la question linguistique?
Alors, il faut commencer déjà par parler du malaise francophone au Gabon. Il y a une sorte de malaise. Les Gabonais sont dans les grandes villes essentiellement francophones et on se rend compte que, à la suite de plusieurs études, que les langues nationales ne se transmettent plus. Donc le français est devenu la langue véhiculaire du Gabon. Donc face à cela, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour essayer de faire comprendre l'importance des langues nationales. Et en réalité, la question ici, c'était de savoir dans quelle mesure Léon Mba a été un élément déterminant dans la situation sociolinguistique du Gabon et dans la prépondérance du français. Léon Mba était polyglotte, comme vous l'aviez rappelé. Il s'exprimait en français, mais il s'exprimait aussi dans des langues du Gabon qui n'étaient pas sa langue maternelle. Donc il avait une ouverture au Gabon sur les autres langues, comme il avait aussi sur le plan culturel, sur le Bwiti, d'une ethnie du Gabon relativement important, comme il avait aussi cette ouverture-là, mais il avait compris que pour exister dans le monde, dans les relations internationales, dans les échanges, il fallait passer par le français. Donc, et sa position était d'autant plus légitimée qu'il estimait que, je pense, hein, que la question des langues ne devait pas se régler par une intervention de l'État. Donc, il était polyglotte, mais il n'était pas une exception dans ce contexte-là. La plupart des gens de sa génération étaient polyglottes. Et les gens de la génération subséquente aussi l'étaient. Ils parlaient leur langue et ils parlaient les langues des voisins. Donc, ça ne posait pas de problème d'être polyglotte. Seulement, avec le temps, ce plurilinguisme des générations antérieures a commencé par disparaître et le français a pris de la place alors même que les langues endogènes ont reculé. C'est ce qui crée ce malaise On a un français acclimaté que tout le monde pratique, mais en même temps on regrette le fait que les langues nationales, au niveau de Libreville et des grandes villes surtout, reculent. Il reste que dans certaines localités, il y a encore une bonne pratique de certaines langues, mais elles sont pour la plupart, il faut le dire, en danger.
Alors, le fait de dire que le français est une langue vernaculaire du Gabon, ça veut dire aussi que il y a eu des adaptations, des infléchissements, comment dire. Ce n'est pas le français de France, pour dire, hein, mais c'est un français qui est la langue française travaillée par les populations dans les conditions de leur existence et pour leurs besoins.
Mais bien entendu, c'est le lot de toute langue. On peut avoir une idée abstraite de la langue, mais la langue, c'est ce que les gens parlent. Le français n'existe pas. Il existe des Français. Le français de France, le français du Canada, le français de Côte d'Ivoire, le français du Gabon, chacun de ces Français a ses particularités, celui du Gabon en a. Il est évident que moi, en tant qu'universitaire, quand je parle avec mes étudiants, j'essaye d'être dans un registre qui se rapproche le plus du français du Gabon, mais une fois que je suis sorti de l'amphithéâtre, dans ma famille, dans la rue, je parle le français du Gabon et je ne m'en rends même pas compte. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ça se manifeste sur le plan de la sémantique. Il y a des mots qui n'ont pas la même signification. Si je vous dis au Gabon, la rosée, en français, la rosée, c'est cette espèce de brume qui assure cette espèce de d'humidité qui assure les plantes le matin. Au Gabon, la rosée, c'est une petite pluie. Donc, mais des exemples comme ça, je peux vous en prendre sur le plan sémantique, sur le plan syntaxique, sur le plan phonologique. Au Gabon, mais comme dans tous les autres pays africains, bantou essentiellement, on ne met pas les accents où les Français les mettraient. La plupart des Gabonais disent samedi, petit, religion, parce qu'ils adaptent les règles d'harmonie vocalique de leur langue bantou au français. Donc ce sont des réalités, mais encore une fois, c'est pas une exception bantou, c'est le processus même normal dans le cadre d'une écologie linguistique où les langues s'influencent les unes aux autres. Et le français du Gabon est une réalité parce que il a été acclimaté depuis plus de 50 ans dans un environnement où il côtoie les langues bantou et bien d'autres langues aussi venant de d'autres pays.
On sait que le Gabon est entouré de d'autres pays bantous, de langues bantous. Est-ce que ce français du Gabon comparé au français du Congo, au français du Cameroun, il y a quand même un mouvement important de population, de marchandises, de biens culturels. Est-ce qu'il y a une sorte d'espace qui comporterait des éléments communs?
Je pense que vous avez la réponse dans votre question. Vous avez une idée de et ça, c'est votre intuition de linguiste. C'est évident. Il y a des mouvements favorisés par les médias, mais avant les médias, les gens circulaient. Donc effectivement, les mots circulent comme les objets. Et donc un mot prend un sens dans un pays, un mot français prend un sens dans ce pays, dans un pays, et va se retrouver avec ce nouveau sens dans un autre pays. Moi, je prends l'exemple du mot Kongosa, qui nous vient du Cameroun, mais la plupart des gens qui l'utilisent au Gabon, pour parler de ragot, hein, de rumeur, la plupart des gens qui l'utilisent au Gabon ne savent pas que ça vient du Cameroun. C'est complètement acclimaté. Il y a beaucoup d'expressions qui viennent du français de Côte d'Ivoire, parce que en Afrique francophone, on suit de plus en plus, et depuis un certain temps, les séries ivoiriennes, par lesquelles passent un certain nombre de particularités du français de Côte d'Ivoire, et ça se fait inconsciemment, et donc il y a cet élément-là effectivement qui est réel, non seulement le fait que des mots français acclimatés dans d'autres pays africains arrivent au Gabon, mais il y a aussi quelque chose à laquelle, moi je crois pour ma part, un grand linguiste français qui est décédé, qui s'intéressait à ces choses-là, avait utilisé le terme de sémantaxe pour dire il y a quelque chose dans les langues africaines qui fait que quand on est locuteur de ces langues-là, on se retrouve toujours une espèce de génie commun à ces langues-là qui fait que qu'on réussit à se comprendre, qu'on réussit à intégrer facilement des mots venant d'ailleurs, qu'on réussit sans difficulté lorsqu'on se retrouve, quand on n'est pas locuteur d'un pays africain dans ce pays-là, on comprend tout naturellement les changements sémantiques qui seraient difficiles à comprendre pour un Français de France.
Je suis avec le professeur Patrick Mouyama Daouda pour parler des langues nationales, de la politique linguistique, du patrimoine linguistique et évidemment de la place du français dans ce paysage culturel. Professeur, les jeunes gens aujourd'hui sont formés à l'école naturellement en français. En français de France ou en français du Gabon ?
Alors, c'est l'ambiguïté de la relation entre le français et les langues nationales. Je pense que si l'enseignant, théoriquement, les enseignants respectent les normes du français de France, mais c'est des normes écrites. Donc, quand il s'agit de faire passer un certain nombre de leçons d'acquis didactiques, ils utilisent des documents écrits. Et les documents écrits respectent les normes du français standard. Mais très vite, parce que l'enseignement est transmis d'abord oralement, très vite, les formes orales endogènes viennent concurrencer les formes écrites. Mais les enseignants n'en sont pas toujours conscients. Donc, il peut arriver qu'il y ait d'ailleurs un conflit entre ce qu'on enseigne à l'écrit et la transmission orale. Je prends un exemple simple. En français de France, on ne fait plus la différence entre la voyelle 1, qu'on trouvait dans, encore en français de France dans les mots pour brun, un homme brun, et la voyelle 1, qu'on trouvait dans les mots un brin d'herbe. Donc cette différence-là, disent les phonologues, a été neutralisée. Elle n'existe plus. Mais en français du Gabon, on fait encore cette différence-là entre un homme brun et un brin d'herbe. Si vous prenez un ouvrage donc du français de France, cette différence-là n'existe plus. Donc l'enseignant va transmettre aux étudiants qu'à l'écrit, cette différence-là n'existe plus. Mais quand il va lui parler d'un homme brun, il réalisera effectivement brun, et quand il parlera d'un brin d'herbe, il parlera d'un brin d'herbe. Il ne sera pas conscient qu'il est en train de transmettre une différence qui n'existe plus en français et qui est enregistrée telle qu'elle dans les documents du français, mais que lui, en tant que francophone, réalise toujours. Donc il y a ce conflit-là entre les normes endogènes, qui sont des normes spontanées, non standardisées, qui proviennent des journalistes locaux, des artistes, des musiciens, du français de la rue. Tout ça, ça pourvoit de nouvelles normes. Mais il n'y a pas d'académie dans nos pays pour formaliser et entériner ces normes. Cela dit, inconsciemment, on les produit.
Alors, si on entre dans la pratique quotidienne courante de ces langues, qu'en est-il de la presse ? Est-ce que la presse est systématiquement en français ou est-ce qu'il y a une combinaison entre le français et les langues nationales ? Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine qui est très important, surtout si on tient compte des débats politiques et du multilinguisme qui existe aujourd'hui ?
Alors, il faut faire la différence entre la presse écrite et la presse parlée, voire la presse audiovisuelle. La presse écrite est essentiellement, voire exclusivement, en français. Parce que pour pouvoir écrire en langue nationale, il faut se mettre d'accord sur une orthographe, il faut que les journalistes maîtrisent cette orthographe, donc et qu'ils maîtrisent leur langue nationale. La plupart sont jeunes, donc c'est difficile pour eux d'écrire en langue nationale. Ça a eu existé après les indépendances, mais de manière très marginale. Au niveau de la presse parlée, de la radio, il y a des émissions en langue nationale, beaucoup moins développées que dans certains pays de la sous-région, notamment la RDC, mais il en existe quand même et il en a toujours existé, notamment les émissions produites par le ministère de l'Éducation populaire, mais d'autres aussi, des journaux télévisés, l'actualité, peuvent se faire aussi quand il s'agit d'informations de grande importance en langue nationale. Mais ça reste très, très marginal. Le Gabon est connu pour avoir une francophonie relativement étendue jusque dans les villages les plus reculés. Et donc, même dans ces villages-là, les populations écoutent les informations en français. Si on n'exclut pas conformément au titre 1 de la Constitution de promouvoir et de développer les langues nationales, et c'est dans ce sens-là que les émissions sont faites en langue nationale, il reste que l'auditoire de ces émissions en langue nationale reste très marginal.
Justement, est-ce que le concept de politique linguistique vous semble fondé, ce n'est pas seulement pour le Gabon, mais d'une manière générale, on entend dans certains pays parler de cette politique linguistique. Même d'ailleurs en France, on pourrait dire.
Tout à fait. Et c'est bien que vous terminiez par ça, parce qu'on a l'impression que c'est une question africaine. Mais l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui définissait l'usage des langues en France, est un texte de politique linguistique. Le problème en Afrique et francophone surtout, c'est qu'au-delà de la constitution qui fixe les grandes lignes de ce que doivent être le rapport entre les langues, il n'y a pas eu d'autres textes ou d'autres initiatives qui préciseraient de manière beaucoup plus concrète l'utilisation des langues nationales sur le territoire. Donc la politique linguistique dans beaucoup de pays africains reste une politique non interventionniste, croyant à une autorégulation du marché linguistique. Mais on sait que ce choix par défaut, qui est une politique linguistique finalement à minima, favorise les langues les plus importantes. Et c'est un peu la situation dans laquelle se trouve le Gabon, parce que finalement, au-delà du principe de développer les langues nationales qui est contenu dans la Constitution, il n'y a pas eu de grands programmes, de grands textes, de grandes initiatives pour mettre en œuvre ces grands principes. Mais ce n'est pas le seul fait du Gabon. Je pense qu'en Afrique francophone, si on excepte la RDC, mais la RDC, c'est une ancienne colonie belge, donc avec un héritage sur la pratique des langues qui est différent, la plupart des pays francophones sont dans cette logique-là. Tout autre est la situation des pays anglophones, des pays comme la Tanzanie, qui ont des académies de langues et qui favorisent les langues nationales. Et depuis peu, l'Afrique du Sud, avec ses 11 langues nationales, qui ont le même titre d'officialité que l'Afrikaans et l'anglais.
Je voudrais terminer sur un phénomène que on voit dans toute l'Afrique aujourd'hui, c'est la floraison des religions issues du christianisme. Quelle langue parle-t-on ? Est-ce que c'est toujours le français, ou dans les cas que je connais ailleurs, en Angola, au Congo Kinshasa, au Congo Brazza, où les pasteurs, comme on dit, parlent dans les langues nationales ?
Alors, au Gabon, c'est encore essentiellement le français, mais le Gabon étant un pays d'immigration, il y a des pasteurs qui viennent d'autres pays. Quand ils viennent des pays francophones, évidemment, le français est relativement proche. Quand ils viennent des pays anglophones, ça peut être du franglais, ça peut être un code switching, une alternance de code entre le français et l'anglais. Mais le plus important, et je suis vraiment content que vous me posiez cette question, le plus important dans ces pratiques-là, c'est la place des chansons. Et de plus en plus, il y a une prolifération, un développement du gospel africain. Et il y a des émissions de télévision que les jeunes ne ratent plus. Ce n'est pas vieux jeu aujourd'hui que d'écouter du gospel africain. Tous les jeunes sont fanatiques du gospel africain. Et le Lingala, qui est une langue qui est très pratiquée dans le gospel africain, l'anglais aussi, l'anglais de l'Afrique du Sud ou l'anglais du Nigeria, sont des langues qu'on retrouve dans les pratiques religieuses au Gabon où la conversation normale se fait en français. Mais les chansons peuvent être en Lingala, peuvent être en anglais, peuvent être dans une autre langue, africaine. Et c'est particulièrement intéressant la gestion de ces langues-là. Alors, évidemment, les personnes qui vont dans ces églises-là ne maîtrisent pas toujours le Lingala, mais il y a un intérêt. Moi, je connais beaucoup de gens, il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là, un intérêt pour ces langues-là à partir du religieux. Donc c'est aussi une autre manière de faire peut-être l'unification linguistique que de passer par la propagation des mouvements religieux, mais ça, c'est une autre affaire.
Et donc on voit bien que la question du respect des traditions, quand elle n'est pas posée dans des contextes sociaux, politiques précis, est un peu abstraite. Là, on voit qu'il y a une histoire, il y a des processus qui sont en train de se faire et qui finiront probablement par produire des effets peut-être troublants pour nous. La réappropriation de la langue française, l'invention de la langue française dans les pays africains et peut-être aussi l'invention de langues africaines multinationaux, si on peut dire.
Je pense qu'on est tous là le fond du problème. La question des dynamiques internes, mais aussi des dynamiques influencées par le contact. Et je pense que l'épistémologie africaine, en sociologie, en histoire, à part quelques exemples que vous connaissez très bien, puisque vous en avez été l'initiateur d'un certain point de vue, a très peu fait cas de cette histoire. Et on parle donc de société, de culture de manière abstraite. Alors que les langues, les cultures, c'est une réalité, sont en contact. Elles sont en contact dans les villes depuis une cinquantaine d'années, avec un développement accéléré par l'accroissement des villes, le dépeuplement des villages. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a eu des phénomènes de contact de culture, de tradition, à des périodes beaucoup plus anciennes. Et ça se poursuit aujourd'hui avec l'apport des cultures occidentales et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Merci beaucoup, merci à vous, professeur Patrick Mougiama Daouda, pour avoir participé à notre émission Mémoire d'un continent, une émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat